Introduction à la lecture de l'écriture sainte, Père Philippe, 17 novembre 1982, Rimont.
Pourriez-vous réexpliquer la distinction entre l'image et la ressemblance? L'image, on dirait dans un style philosophique, si vous voulez, le point de vue de l'image, c'est la structure même, la similitude vers laquelle il peut y avoir avec Dieu. C'est ça l'image. La ressemblance implique une tendance vers. Et la ressemblance, c'est l'attraction de Dieu sur nous pour faire que nous soyons un avec lui. Tandis que l'image, c'est de l'ordre de la similitude. Donc c'est bien toujours, ce qui est du reste très curieux, ces distinctions substance et acte. On est semblable à quelqu'un quand il y a une similitude profonde. Et c'est ça le propre de l'image. L'image est semblable à son modèle et à sa source. Et la ressemblance, c'est quelque chose de plus. C'est le retour vers la source. C'est l'attraction. Et ça, les pères de l'Église, très souvent, soulignent ce double aspect, image et ressemblance. Que penser de cette réaction face à la foi du charbonnier concernant la création en 7 jours? Création de l'âme à partir de la glaise, l'homme descend du singe par la théorie de l'évolutionnisme avec intervention directe de Dieu. Je sais très bien que ces choses-là ont été soutenues et que ça continue d'être soutenu. Je dis, quand c'est comme ça, que je ne vois pas, c'est tout. Moi, je ne comprends rien du tout à cette position-là, parce que si l'âme est créé dès le premier moment de la conception. Vous voyez ce qui se passe. Cet animal supérieur va porter dans ses entrailles, sans le savoir, parce que c'est un animal, un être supérieur à lui, qui est créé à l'image de Dieu. Alors, est-ce que Dieu peut confier un être si fragile à quelqu'un qui n'a aucune conscience de ce que c'est que cette alliance fondamentale avec Dieu? C'est pour ça que je ne comprends pas. Je dis cette position de l'évolution fait appel à des problèmes encore plus complexes, parce que ça me semble contraire à la sagesse de Dieu. La révélation me montre que Dieu fait son chef-d'œuvre dans l'homme et la femme, et que c'est une œuvre de sagesse et une œuvre d'amour. Si c'est une œuvre de sagesse et une œuvre d'amour, tout doit être conforme à la sagesse de Dieu et l'amour de Dieu. Or, si de fait, l'homme premier apparaît de cette manière-là, ça ne me semble pas très conforme à la sagesse et à l'amour. On ne confie pas un trésor à quelqu'un qui n'a aucun sens de ce trésor. Le petit de l'homme serait confié donc à un animal supérieur. Alors, autre problème, on sait très bien qu'un enfant confié à une louve ou à un animal supérieur n'arrive pas à parler. Comment l'homme est-il arrivé à parler? Première éducation. Vous voyez, en supposant qu'il y a des tas de problèmes qui n'expliquent pas du tout, ça n'explique rien du tout, ça explique la causalité matérielle. Parce que l'évolutionnisme, c'est la causalité matérielle. Uniquement la causalité matérielle. Du côté de la causalité matérielle, il y a une continuité, c'est bien évident, il y a une continuité entre tous les vivants. Mais l'évolutionnisme, pris dans son absolu, hein, l'évolutionnisme, le passage de l'animal à l'homme, l'évolutionnisme prise dans son absolu, ceux qui ont vu l'exposition qui a eu lieu à Paris, n'est-ce pas, il y a quelques années, vous savez, où on montrait d'une façon très élégante le dernier moment de l'évolution, il y avait une glace, et donc tous les Parisiens se regardaient, et vous voyez, le dernier moment de l'évolution, c'était le Parisien. Alors, c'était merveilleux, ça. Eh bien, quand vous regardiez cette chose-là, vous voyez que c'était rempli de questions. À chaque instant, il y avait des questions. Du côté de la causalité matérielle, qui est du côté de la disposition, oui, il y a une certaine continuité. Il y a une certaine continuité entre tous les vivants. Il y a une certaine continuité, c'est pour ça qu'on peut, on peut saisir quelque chose de commun dans tous les vivants. Mais ça n'explique rien du tout, ça. Dès qu'il y a l'esprit, alors l'âme humaine est une âme spirituelle. Le philosophe doit le reconnaître, et le chrétien encore plus. L'âme spirituelle ne peut être que créée directement par Dieu. Il doit y avoir une conformité, une harmonie, entre l'âme spirituelle et le corps. Or, si le corps est formé par l'animal, il est disproportionné à l'âme spirituelle. Donc, je n'explique rien. L'évolutionnisme n'explique rien. Ça cache un problème, c'est tout. Je crois qu'il faut être assez net là-dessus. L'évolution en dehors de l'homme, ça m'est égal. Hein, et le philosophe laisse. Et le chrétien laisse. Mais le passage avec l'homme, ça c'est très différent. Le philosophe s'intéresse à l'homme et veut comprendre ce que c'est que l'homme. Et le croyant s'intéresse à l'homme parce que c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Alors comment Dieu a-t-il créé l'homme et la femme? Je n'en sais rien. Mais j'aime ces textes de l'Écriture qui me montrent combien Dieu a regardé l'homme et la femme avec amour. C'est ça qui m'intéresse. L'origine, je ne la sais pas. Comment Dieu l'a fait, je n'en sais rien. Vous voyez, la foi ne nous dit jamais le comment. La science voudrait bien le dire, mais la science ne peut pas dire le comment de l'apparition de l'homme et de la femme. Et la science ne peut pas dire le comment de l'apparition de la vie. Alors, on essaie de mettre des hypothèses. C'est très bien ces hypothèses, c'est très intéressant. Laissons les hypothèses. Mais comprenons que la foi me rappelle que l'homme et la femme sont le chef-d'œuvre de Dieu et qu'il y a une harmonie parfaite entre l'âme et le corps. Le corps est pour l'âme et non pas l'âme pour le corps. Or, tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'entre l'animal et le corps, et entre l'animal et l'homme, il y a un hiatus. Vous savez bien, à un moment donné, on a cru qu'on pourrait faire des transfusions de sang. J'ai dû, comme ça, faire un compte-rendu d'un livre qui était de Otis, qui était doctrine de l'évolution, d'un point de vue scientifique, philosophique et théologique. Alors, j'ai dû faire ça. J'avais donné des cours au Canada, et c'était un livre qui était fait au Canada avec une préface de Charles de Coninck, et c'est Charles de Coninck qui me l'avait demandé de le faire. Ça a été l'occasion d'une certaine brouille entre nous, parce que j'étais pas d'accord. Je l'ai dit ouvertement. D'abord, c'est pas une doctrine. C'est une hypothèse. Bon, on peut dire une théorie, mais enfin, c'est pas une doctrine. Il n'y a pas de doctrine de l'évolution au niveau théologique. Il n'y a pas de doctrine de l'évolution au niveau philosophique. Je me souviens, quand j'ai eu ce livre, je l'ai fait avec c'était l'occasion pour moi d'entrer dans ce problème qui m'intéressait. C'est très intéressant d'étudier ça. Et il faut le faire. Alors j'ai fait mon enquête auprès de certains savants, et entre autres auprès d'un histologue, qui était un jeune histologue que je connais à Fribourg, qui était délicieux. Alors je montrais ce livre. Je dis, qu'est-ce que vous dites, vous ? Elle dit, ah, moi, en tant qu'histologue, que voulez-vous ? Je dis que l'évolution, c'est une vision philosophique des choses. Ah, je suis très heureux que vous me dites ça, parce que moi je dis c'est une vision scientifique des choses. Alors vous voyez, alors à ce moment-là on commence à comprendre, on a éclaté de rire l'un et l'autre, on a dit ah bon, donc d'un côté c'est philosophique parce qu'on n'est pas dedans, et de l'autre côté on est scientifique parce que c'est pas dedans. Ça prouve que c'est de la rhétorique. Alors alors qu'il y ait un problème de l'évolution au niveau biologique, c'est bien évident. Mais Rostand était le premier à dire « N'universalisons pas le problème de l'évolution ». Ça veut bien la réaction violente d'un Rostand en face de Teilhard. C'est lui qui a réagi le plus violemment. Il a montré que ça n'avait pas de sens au niveau scientifique. On a continué quand même de le propager. C'est très curieux. Hein. Vous savez, quand ça va dans un sens, on propage tout. Quand ça va dans l'autre sens, on dit « Oh, c'est vieilli ». C'est très curieux, ça. C'est là où on voit très bien comment ces théories-là ne sont pas saines, au sens fort. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas entièrement vrai. Alors on pousse le plus loin possible. que l'évolution au niveau biologique soit un problème, Rostand lui-même le disait. Mais Rostand était d'une très grande loyauté là-dessus, à la fin de sa vie. Pas toujours, il n'a pas toujours été comme ça, mais à la fin de sa vie, il l'était. Et il disait lui-même que peut-être les dernières découvertes qu'on avait faites au point de vue génétique reposaient tout le problème. Je sais qu'il l'a dit à quelqu'un. Ça reposait tout le problème, parce qu'avant, on disait que l'évolution, c'était à partir de la conception jusqu'au moment de la naissance. Alors maintenant, on dit que dès le premier instant de la conception, le chiffre de l'homme est donné. Donc il n'y a pas possibilité d'évolution, au sens propre. Il y a possibilité de transformation, c'est sûr, mais pas d'évolution au sens où on l'entend, au sens fort. Et Rostand a dit lui-même à ce moment-là, alors que toute sa vie s'était orientée vers cela, les têtards, hein, l'évolution des têtards et des petits moutons, c'était ça qui l'intéressait. Mais oui, mais quand on arrive des petits moutons à l'homme, il y a un petit changement, tu vois. Alors, je crois qu'il faut être très net là-dessus. Bon, ne critiquons pas l'évolution, c'est pas la peine, parce que si vous commencez à critiquer l'évolution, ça divise la moitié de la salle en deux. Alors, faut pas la peine, c'est tout à fait inutile, hein, laissons ça. Mais on parle de la foi, on dit que la foi nous donne cette vision sur l'homme et la femme, dans une vision très très nette de chef-d'œuvre de Dieu. Dieu se repose après avoir réalisé son chef-d'œuvre. Et c'est ça qu'on doit retenir. On ne doit pas mêler le langage de la foi, qui est un langage symbolique, poétique, mythique, mais divin. Dieu veut nous donner une vision de l'homme et de la femme dans les deux premiers livres, dans les deux premiers chapitres de la Genèse. Et cette vision de l'homme et de la femme, c'est pour nous faire comprendre la grandeur de l'homme et de la femme dans la création. Je peux dire, Dieu a d'abord créé des anges, ça je peux le dire, pas d'après le texte de la Genèse, mais je peux le dire en regardant tout l'ensemble de l'Écriture et en regardant toute la grande tradition. Dieu a d'abord créé des anges. Et après avoir créé des anges, Dieu a voulu créer un monde physique pour réaliser son chef-d'œuvre dans l'homme et la femme. Le monde physique, ce monde physique dans lequel nous sommes, n'a de sens profond que parce qu'il y a l'homme et la femme. Dieu n'aurait pas créé la matière s'il n'y avait pas l'homme et la femme. Et donc Dieu a créé la matière pour l'esprit. C'est pour l'esprit, c'est pour réaliser l'union d'une âme spirituelle et d'un corps que Dieu a réalisé ce monde matériel. Alors, vous comprenez bien, il y a une harmonie entre les deux. Il y a une harmonie entre les deux. Une grande harmonie. Or, l'animal n'est pas en disposition ultime vis-à-vis de l'âme spirituelle. Et tout le monde est d'accord là-dessus. C'est ce que disait cet histologue quand il m'a dit « Non, on ne peut pas dire que le corps de l'animal, si évolué qu'il soit, soit en disposition ultime vis-à-vis de l'âme spirituelle. C'est impossible. Il y a un hiatus entre les deux. » Et plus on avance, plus on voit qu'il y a un hiatus. Et vous savez bien ces expériences qu'on a faites sur les animaux et puis quand on les transpose vis-à-vis de l'homme, ça fait des catastrophes. Parce que de fait, il y a dans l'unité du corps humain unité si profonde que le corps humain ne peut être compris pleinement que quand on regarde l'âme. C'est ça, c'est vrai. C'est ça, c'est la limite de la biologie. C'est que la biologie veut connaître le corps humain par lui-même. Or, on ne peut pas connaître le corps humain sans regarder l'âme, parce que le corps humain est orienté vers l'âme. Il est ordonné vers l'âme. Alors, je crois que c'est très important de bien saisir cela. D'autre part, il faut comprendre, par rapport à ce que dit l'évolution, c'est que l'évolution prend comme analogie uniquement la science. Si je regarde théologiquement ce que c'est que la création, on doit la prendre beaucoup plus, au point de vue analogie, du côté de l'activité artistique. Vous voyez, il y a deux analogies pour qu'on regarde le problème de la création. Il y a l'artiste et le père. Et quand je dis ça, je m'appuie sur toute une tradition philosophique et théologique. Déjà, les néoplatoniciens, Proclus, dit que lorsqu'il s'agit du problème de la création, il faut toujours bien regarder le créateur, l'artiste suprême, et le père qui communique la vie. Et dans la tradition alors proprement chrétienne, nous voyons très bien que quand il s'agit du problème du mystère de la création, nous voyons qu'on se sert de deux analogies. On se sert de l'analogie de Dieu créateur dans sa liberté de créateur qui crée comme un artiste. C'est pour ça qu'il y a le geste du potier. Le potier, c'est un artiste. Et alors, il y a le geste du potier, il crée comme un artiste. Il crée comme un artiste aussi, le second geste du chirurgien. Le chirurgien aussi, c'est un artiste, d'une autre manière, mais c'est un artiste. Et puis, il y a la communication de la vie. Donc, il y a les deux analogies. Si je veux comprendre théologiquement le problème de la création, il faut toujours prendre ces deux analogies. Quand vous prenez le problème de la création de l'homme et de la femme dans la perspective de l'évolution, vous ne prenez qu'une seule analogie, d'une manière univoque. Vous regardez la communication de la vie. Vous oubliez que lorsqu'il s'agit de la création de l'âme, et l'évolutionnisme ne peut pas regarder l'âme, et ne regarde jamais l'âme, alors vous ne regardez que d'une façon univoque par la causalité matérielle. La communication de la vie. Et vous oubliez l'autre analogie, qui est première, l'analogie de l'artiste. Quand je regarde l'analogie de l'artiste, je m'aperçois que c'est tout à fait autre chose. Un grand artiste, on le sait bien, on a tous vu des expositions de grands artistes, et c'est toujours très intéressant de voir la manière dont travaillent les grands artistes. Je me souviens de cette exposition de Rembrandt en Hollande, il y a quelques années, qui était si belle, on avait rassemblé à peu près toutes les œuvres de Rembrandt. Alors on voyait la salle des esquisses, des ébauches, et puis les réalisations. Il y a des ébauches. Dieu fait des ébauches. Un grand artiste. Et puis il fait son chef-d'œuvre. Pourquoi pas comprendre que Dieu fait des ébauches, et des ébauches qui sont très très proches. Pourquoi Dieu a-t-il créé des singes, alors qu'il voulait créer son chef-d'œuvre dans l'homme et la femme? Pour montrer l'ébauche. Toute la différence qui existe entre un vivant qui peut être extérieurement et très proche, mais il y a un abîme entre le singe et l'homme. Il y a un abîme. D'un côté, il y a quelqu'un qui est habité par l'esprit. Et de l'autre côté, il n'est pas habité par l'esprit. Quelqu'un qui sourit et de l'autre côté qui ne sourit pas. Alors, vous voyez, si je prends l'analogie de l'artiste, j'ai juste l'inverse. Un grand artiste ne se sert jamais d'ébauche pour réaliser son chef-d'œuvre. Jamais. Les repeints, hein, on sait très bien ce que ça veut dire, hein. Se servir d'une première chose pour faire son chef-d'œuvre, c'est un mauvais artiste. C'est un petit artiste qui fait ça. Un grand artiste, quand il s'agit de son chef-d'œuvre, il reprend tout, radicalement. Ça, c'est les œuvres de l'artiste, c'est la manière d'agir de l'artiste. Eh bien, je crois que Dieu est un grand artiste quand il crée. Et ce sont les analogies de l'art qui sont beaucoup plus proches pour nous, au point de vue de la théologie, pour comprendre ces textes de l'Écriture. C'est beaucoup plus ces analogies de l'art qui nous aident à comprendre. Mais il faut bien voir que les théologiens n'ont plus du tout fait de philosophie de l'art. Les théologiens n'ont pas du tout compris que lorsqu'il s'agit de la création, c'est les analogies de l'art qu'il faut se servir. Un art qui est un art d'amour, un art qui atteint l'être, et pas uniquement la forme. Et donc, il reprend tout radicalement. Et je crois que c'est bien ce que l'Écriture nous montre. Comment ça s'est fait, je n'en sais rien. Mais je suis beaucoup plus proche de la vérité en disant ça. Que lorsqu'il s'agit de l'homme et de la femme, Dieu, en grand artiste, a tout repris radicalement. il ne s'est pas servi d'ébauche. Tandis que s'il s'est servi de l'animal supérieur pour communiquer l'âme, l'âme spirituelle, il se serait servi d'ébauche. Ce serait un repeint. Pauvre homme, hein, pauvre femme. Vous voyez, ce serait lamentable. Parce qu'alors, ce serait plus chef-d'œuvre de Dieu. Ce serait plus du tout. Ce serait que Dieu, il n'avait pas pensé d'aller jusque-là. Et puis, il a trouvé que l'animal, c'est pas si mal, le singe, était assez intelligent après tout. Alors, on pourra peut-être en faire un chef-d'œuvre. Oui, c'est comme si Dieu était comme ça. Mais non, c'est méconnaître complètement ce que c'est que la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu n'est pas en attente de l'évolution. La sagesse de Dieu domine l'évolution. Et donc, Dieu sait très bien ce qu'il va faire. Et Dieu sait très bien, quand il crée des animaux, pourquoi il les crée. Il les crée pour que nous comprenions mieux les différents degrés de vie. Et que nous comprenions mieux ce que c'est que la vie spirituelle, qui dépasse tous les autres degrés de vie. Alors, si vous prenez cette analogie de l'artiste, vous voyez, qui nous fait comprendre le point de vue de la sagesse de Dieu, j'ai un regard tout différent. Et je comprends bien que la science biologique qui regarde la causalité matérielle ne peut rien nous dire sur l'âme spirituelle. Si elle ne peut rien nous dire sur l'âme spirituelle, elle ne peut pas savoir comment je peux penser le geste du Créateur. Pour connaître ce que c'est que la vie, il faut connaître ce que c'est que l'âme. Que c'est l'âme qui est source de vie. Et donc, pour connaître le vivant, il faut connaître ce que c'est que l'âme. Et pour connaître ce vivant supérieur qui est l'homme, il faut connaître l'âme spirituelle. Vous voyez, alors je crois qu'il faut tout simplement, vis-à-vis de ces questions-là, aujourd'hui on peut le dire d'une façon beaucoup plus sereine qu'il y a quelques années, parce qu'il y a quelques années, si on faisait la moindre remarque vis-à-vis de l'évolution, vous étiez traité comme le dernier des crétins. Alors il fallait faire attention, n'est-ce pas ? Il fallait faire grande attention. Mais il fallait donc mettre des gants en disant « Attention, ce domaine-là, je ne le traite pas. » Mais aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin. Parce qu'on voit les limites. On voit beaucoup plus les limites de la science. Alors on peut comprendre que de fait, il y a un autre regard. C'est ce que me disait Pifetot. Pifetot qui pourtant avait fait cette grande exposition à Paris, le professeur Pifetot, qui est quand même un de ceux qui sont les plus compétents, j'ai longuement parlé avec lui là-dessus, parce que ça m'intéressait de voir ses réactions. Et quand il était venu faire une grande conférence à Fribourg sur ce qu'on pouvait dire de l'apparition de l'homme aujourd'hui, il m'a dit, j'aurais aimé après cette conférence, qu'un théologien disent « Voilà les textes de l'Écriture et voilà ce que la théologie dit. » Parce que nous n'avons pas le droit de parler de ça. Si nous sommes loyaux jusqu'au bout, nous n'avons pas le droit. Parce que nous touchons des petits points. On n'a pas le droit de montrer le passage. On peut simplement dire « On est dans un domaine d'ombre. » Mais ils disent exactement comme celui qui est dans la caverne. Mais on est dans un domaine d'ombre. Alors on voit certains points comme ça, mais comment l'homme est-il apparu? Ça reste un grand mystère. Et j'ai beaucoup aimé ça, de la part d'un grand savant, disant que c'est vrai, c'est le rôle du théologien de parler de l'apparition de l'homme et de la femme dans la lumière des textes de l'Écriture, sans préciser le comment, mais en montrant la finalité. C'est la finalité. Dieu a créé l'homme et la femme pour réaliser une amitié, une alliance avec lui. Une alliance d'amour, une alliance de sagesse. Et c'est ça qui nous est montré dans ces deux grands récits de la création. Alors, ce que je vous disais la dernière fois, il y a encore une petite question, mais je la prendrai la fois prochaine. Ce que je vous disais la dernière fois, c'est qu'il fallait bien comprendre que ces deux récits se complètent. Et c'est très beau de voir que Dieu nous donne exprès deux récits, que l'Esprit Saint nous donne deux récits, le récit de la transcendance, le récit de l'immanence. le récit de la parole, le récit du geste. Et c'est très important de comprendre cela, parce qu'à travers toute l'écriture, on essaiera de redécouvrir le point de vue de la parole et le point de vue du geste. Vous voyez, c'est là encore qu'on voit qu'une théologie scientifique ne regarde que la parole, et une théologie mystique est la seule à pouvoir assumer le geste. C'est là qu'on voit qu'une théologie scientifique, comme nous est donnée dans saint Thomas, ne suffit pas, parce que tout ce qui nous est donné à travers le geste est laissé tomber de côté. Ça, c'est vrai, une théologie scientifique ne peut pas parler du geste. Une théologie scientifique est à partir de la parole de Dieu. Or, la foi reçoit la parole et le geste. En sachant que la parole nous communique toute la sagesse de Dieu et toute l'intelligibilité que Dieu veut nous communiquer comme en enseignement. Mais Dieu veut aussi qu'il y ait des gestes. Des gestes qui nous révèlent son amour. Parce que le geste révèle plus l'amour que la parole, nous savons bien. Quand il s'agit de l'amour, quand il s'agit de montrer ce que représente le point de vue de l'amour qui unit deux êtres, l'amour d'amitié, la parole ne suffit pas. Nous disons toujours, l'amour est ineffable. Ça veut dire que la parole s'arrête devant le mystère de l'amour. Le geste va plus loin. Or, si Dieu a voulu réaliser son chef-d'œuvre dans l'esprit lié à la matière, c'est bien ce qu'il nous est montré ici, et que le chef-d'œuvre de Dieu n'est pas l'ange. Si le chef-d'œuvre de Dieu était l'ange, Dieu n'aurait pas créé un monde physique et n'aurait pas créé son chef-d'œuvre dans l'homme et la femme. Le chef-d'œuvre de Dieu n'est pas l'ange. Pourquoi ? Parce que Dieu est lumière et amour. Les anges montrent le chef-d'œuvre de la lumière. Et l'homme et la femme montrent le chef-d'œuvre de l'amour. Et c'est pour ça que c'est par le point de vue de l'homme et de la femme et par le geste, et c'est pour ça que le second récit est plus précieux que le premier. Il ne faut pas les séparer, mais le second récit est plus précieux que le premier parce que c'est le geste qui nous montre l'intensité d'amour de Dieu dans son geste créateur. Il nous fait comprendre que si Dieu a voulu unir l'esprit et la matière, c'est pour pouvoir, dans son chef-d'œuvre, réaliser une communication plus intense d'amour. Au point de vue de l'intelligence, nous sommes inférieurs aux anges. Pas la peine de lutter avec eux. Ils vont mieux reconnaître tout de suite qu'on est dans une attitude inférieure. Tandis que quand il s'agit de l'amour, on peut lutter avec eux. Le père Deau aimait dire que quand on faisait oraison, les anges venaient se réchauffer auprès de nous. C'est très beau, ça. C'est extraordinaire. On était comme des calorifères pour les anges. Et les anges venaient se réchauffer parce que, de fait, l'homme, avec sa faiblesse, a une capacité d'aimer plus grand parce qu'il est lié au Christ, il est membre du Christ. Et les anges sont dans une telle admiration devant Jésus. Il est la tête et nous sommes les membres. Et nous avons, nous, un lien avec Jésus que lui, que non pas. Alors il s'approche des plus petits que nous sommes pendant notre oraison, où nous sommes reliés à la tête et les anges viennent se réchauffer auprès de nous. C'est très beau, ça. Vous n'avez qu'à regarder votre ange gardien pendant que vous faites oraison, n'est-ce pas ? Et il vient se réchauffer. Parce que, de fait, si votre oraison est brûlante d'amour, c'est vrai, le cœur de l'homme est le lieu de la rencontre de l'amour de Dieu et de l'homme. Plus que la volonté de l'ange. Il a voulu réaliser son chef-d'œuvre dans l'homme et la femme pour que l'intelligence accepte de laisser passer devant l'amour. C'est bien cela que Dieu nous demande. Nous savons que nous allons plus loin par l'amour que par l'intelligence. L'intelligence est plus noble. Elle est le fils aîné, l'intelligence. Elle a un droit d'aînesse. Il faut que celui qui a un droit d'aînesse laisse passer le plus petit derrière, l'amour. Par l'amour, nous allons plus loin. Nous allons plus loin par l'amour que par l'intelligence. Et notre intelligence est pleinement elle-même quand, justement, elle est au service de l'amour. Et alors l'intelligence au service de l'amour permet à l'amour d'aller encore plus loin. Ce n'est pas du tout supprimer l'intelligence que je dis ça. Ce serait justement méconnaître comment Dieu a voulu ce lien entre l'intelligence et l'amour pour que l'amour puisse se spiritualiser. Mais l'amour passionnel est un amour qui n'est pas assez spiritualisé. L'intelligence n'est pas assez présente. Alors l'amour passionnel va moins loin que l'intelligence. Vous savez bien cette fameuse parole de saint Thomas, « Vaut-il mieux aimer que de connaître ?» Alors saint Thomas nous dit, quand il s'agit des réalités supérieures à l'homme, l'amour va plus loin. Quand il s'agit des réalités inférieures à l'homme, la connaissance va plus loin. Donc quand il s'agit du petit chien ou du petit chat, il vaut mieux les connaître que les aimer. Quand il s'agit de l'homme et de Dieu, il vaut mieux les aimer que les connaître. Ça va plus loin. Mais il faut les connaître pour les aimer plus. Et pour que l'amour aille jusqu'au bout de son exigence d'amour. Donc si Dieu a créé son chef-d'œuvre dans l'homme et la femme, voilà ce que nous pouvons dire, hein, d'après ces deux grandes visions. Vous savez bien cette fameuse parole de saint Thomas, « Vaut-il mieux aimer que de connaître ?» Alors saint Thomas nous dit, quand il s'agit des réalités supérieures à l'homme, l'amour va plus loin. Quand il s'agit des réalités inférieures à l'homme, la connaissance va plus loin. Donc quand il s'agit du petit chien ou du petit chat, il vaut mieux les connaître que les aimer. Quand il s'agit de l'homme et de Dieu, il vaut mieux les aimer que les connaître. Ça va plus loin. Mais il faut les connaître pour les aimer plus. Et pour que l'amour aille jusqu'au bout de son exigence d'amour. Donc si Dieu a créé son chef-d'œuvre dans l'homme et la femme, voilà ce que nous pouvons dire, hein, d'après ces deux grandes visions. C'est pour communiquer un plus grand amour. C'est pour communiquer le mystère de sa fécondité. La première alliance de l'homme avec Dieu, la première alliance de l'homme avec Dieu, c'est justement cette alliance dans la fécondité. C'est l'alliance fondamentale. La vie implique la fécondité. Et Dieu a voulu communiquer cette vie à travers la matière pour pouvoir communiquer ce mystère de fécondité. Il n'y a pas de fécondité dans les anges. Il n'y a qu'un mystère d'intelligence. Et une intelligence merveilleuse, contemplative. Il y a de l'amour, c'est bien évident qu'il y a un amour dans les anges. Mais l'amour va plus loin quand il s'agit de l'alliance avec les hommes. C'est ça qui explique, en définitive, vous savez bien, le péché de l'ange. Alors je suis obligé de regarder tout de suite le péché de l'ange parce que je vois qu'après avoir montré, n'est-ce pas, le point de vue de la création, c'est immédiatement le péché. Le troisième individu qui apparaît. Or on n'en a pas parlé. Là on voit très bien le langage mythique. C'est illogique. Alors apparaît le serpent. On n'en a pas parlé. On a parlé justement uniquement de l'homme et de la femme. Et puis subitement, on parle du serpent, chapitre 3. Je ne vais pas le voir tout de suite, mais c'est pour simplement indiquer qu'il y a là un problème sur lequel nous reviendrons. Ce n'est pas le lieu propre, on doit le voir parfaitement, c'est dans l'Apocalypse. Mais avant d'arriver à l'Apocalypse, il y a du temps. Hein. Alors, il faut quand même essayer d'en dire un mot, n'est-ce pas ? C'est qu'il s'agit de comprendre que l'ange a eu une crise terrible de jalousie quand Dieu lui a révélé qu'il n'était pas le chef-d'œuvre. Quand Dieu a dit aux anges qu'il allait continuer son œuvre de créateur. C'est pas commode à accepter ça, hein, quand on est un ange. Dieu aurait dû s'arrêter en trouvant que c'est suffisant. Non, Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette jalousie terrible. Les fils aînés n'ont pas accepté le petit cadet, qui serait de terre rouge. Pour un pur esprit, évidemment, c'est difficile d'avoir comme frères et sœurs des êtres terrestres, de chair et de sang. C'est pas commode. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cet orgueil de Lucifer qui a dit non, qui n'a pas accepté l'acte créateur de Dieu qui se prolongerait comme créateur du monde physique, comme créateur du monde de l'homme et de la femme, donc du chef-d'œuvre de Dieu. Et dans l'orgueil, il s'est séparé. Et malgré ça, Dieu a continué son œuvre de création. Ça, nous le verrons, parce que c'est important de bien saisir que la création de l'homme et de la femme s'est faite dans la lutte. Et c'est pour cela que tout de suite apparaît le serpent. Parce que de fait, la création de l'homme et de la femme s'est faite après la chute de Lucifer. Et c'est important de le souligner, parce que ça nous fait comprendre le caractère magnanime du Créateur. Nous, quand nous réalisons quelque chose, et que ce que nous voulons réaliser ne va pas jusqu'au bout de notre idée, de notre projet, nous risquons à ce moment-là de dire, si c'est comme ça, je m'arrête. Nous ne sommes pas assez magnanimes, hein, parce que nous regardons les résultats. Le magnanime ne regarde pas les résultats. Il va au-delà des résultats, il supporte les échecs. C'est là où on saisit le magnanime. Celui qui n'est pas magnanime, il ne supporte pas les échecs. Et dit, si c'est comme ça, je m'arrête. Dieu aurait pu dire ça, hein. Ah, si c'est comme ça, je m'arrête, c'est suffisant, mon expérience. Hein. Non, malgré ça, malgré l'orgueil de l'ange, Dieu a continué. C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est la magnanimité du Créateur. De réaliser au milieu de la lutte son chef-d'œuvre d'amour. Donc, il s'agit de bien saisir cela. Alors, dernière petite remarque avant de regarder le chapitre 3. Si nous regardons attentivement ces deux premiers récits, nous voyons bien que la dimension de l'image de Dieu dans l'homme et la femme implique ces trois dimensions: le dominium, l'intelligence et l'amour. Et nous y reviendrons, mais c'est important de le souligner tout de suite. Les pères de l'Église, à la suite de saint Augustin, diront mémoire, intelligence et amour. Je crois qu'il faut rectifier, avec tout le respect qu'il faut pour saint Augustin, il faut rectifier ce que dit saint Augustin et revenir au texte. Et c'est plutôt le dominium. L'homme, Dieu a donné à l'homme un dominium, c'est-à-dire un pouvoir, une autorité sur l'univers physique, pour pouvoir transformer cet univers physique. Et le Saint-Père, dans son encyclique sur le travail, n'hésite pas de nous le montrer, que c'est le premier précepte que Dieu donne à l'homme, de dominer l'univers, c'est-à-dire de travailler. Dieu n'a jamais donné aux animaux un précepte de travailler. Le premier précepte par où l'homme dépasse l'animal, c'est qu'il est capable de dominer l'univers. L'animal ne domine pas l'univers. L'animal est le fruit de l'évolution. L'homme domine, donc il n'est plus le fruit de l'évolution. Autrement, il ne dominerait pas. Et donc ce dominium que Dieu donne nous montre que l'homme n'est pas le fruit de l'évolution, qu'il y a autre chose, il y a un lien direct avec le Créateur. Il participe d'une certaine manière, il participe à la toute-puissance de Dieu. Et il participe à la toute-puissance de Dieu pour que par son travail, il puisse achever l'œuvre du Créateur. Dieu n'a pas voulu faire un univers parfait. il a laissé la place à l'homme. Ça, c'est merveilleux comme délicatesse de la part de Dieu. Il a voulu qu'il y ait dans l'univers une capacité de transformation. Et cette capacité de transformation, c'est pour que l'homme puisse dominer l'univers, c'est-à-dire se servir de l'univers en le transformant. Donc la première dimension de l'homme créé à l'image de Dieu, c'est le dominium, la connaissance pratique du travail, du facere. Ensuite, la connaissance. Il nomme toute chose. C'est lui qui doit nommer toute chose. Et vous voyez, la science continue de nommer toute chose. Le savant, c'est celui qui nomme les différentes choses qu'il voit. Un astronome nomme les étoiles. Il les appelle par un nom. Et quand il les nomme, c'est parce qu'il les connaît. Un biologiste nomme les choses. Il nomme les différents organes de l'homme, les différentes parties. Et dès qu'on découvre quelque chose, on le nomme. Nommer, c'est très très beau du reste, hein? L'intelligence de l'homme qui doit nommer toute chose. Puis le dernier aspect, c'est l'amour. L'homme est capable d'aimer. Il a une capacité d'aimer. Et cette capacité d'aimer, c'est la rencontre de l'homme et de la femme, os de mes os, chair de ma chair. L'homme est capable d'aimer et de choisir celle que Dieu met sur sa route, celle que Dieu lui donne. Où l'homme est capable de choisir celui que Dieu met sur sa route. Il est capable de le choisir et de l'aimer. Vous voyez, je crois que c'est les trois grandes dimensions de l'homme, par où il est créé à l'image de la sagesse de Dieu. Il y a un ordre dans ces trois dimensions. Et ça, nous le verrons avec d'autant plus netteté en regardant justement les interventions du démon. C'est-à-dire en regardant la manière dont le démon, de fait, va attaquer l'homme. À partir du chapitre 3, il y a un ordre. Le dominium est ordonné à la connaissance. Et la connaissance est ordonnée à l'amour. Je crois que nous pouvons assez facilement découvrir cela. Parce que le dominium, c'est à l'égard de la matière. La connaissance, c'est à l'égard de toutes les réalités. On ne transforme que la matière. Et dans le vivant, on ne transforme que la matière vivante. Je ne peux pas transformer l'âme, tandis que je peux nommer l'âme. C'est toute la différence entre la connaissance pratique et la connaissance spéculative, vous voyez. La connaissance pratique, ce n'est pas uniquement nommer. La connaissance pratique, c'est transformer. Et c'est pour ça que c'est le dominium. Tandis que dans la connaissance spéculative, c'est nommer. Et la connaissance spéculative n'est pas dernière, elle est pour l'amour. Elle est pour la rencontre avec un autre et l'aimer. Et c'est la troisième dimension. Alors, il y a un ordre de sagesse dans ces trois dimensions. Voyez, c'est le premier examen de conscience. L'examen de conscience très radical que nous devons faire en lisant l'Écriture. Puisque c'est Dieu qui nous enseigne là. Est-ce que le dominium que nous avons tous un petit dominium. Tous un petit dominium. Dominium sur les casseroles. Dominium sur les outils. Dominium sur les autos. Dominium sur notre corps. Nous avons un petit dominium. Alors, est-ce que ce dominium est-il tyrannique ou ce dominium est-il en respectant la matière qu'on use? On doit coopérer avec la matière. On ne doit jamais la tyranniser. Alors, est-ce que notre dominium reste un dominium humain? On a autorité sur la matière, on a autorité sur les outils, on a autorité sur les animaux, sur les insectes. Vous savez bien, on a autorité sur les insectes. On a autorité sur les fourmis. l'autorité que nous avons, est-ce que elle n'est pas tyrannique? Est-ce qu'elle est respectueuse de l'autre? On doit respecter la matière. On doit respecter le vivant. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas écraser une petite fourmi qui nous pique. Attention, ça, voyez, c'est différent. Parce qu'alors, à ce moment-là, vous diriez qu'il faut être végétarien et donc il faut nécessairement être végétarien. Non, nous verrons que l'écriture nous permet de ne pas être végétarien, n'est-ce pas? Et que celui qui est végétarien, du reste, c'est ce que je disais une fois à quelqu'un, c'est la première activité apostolique que j'ai eue au Saulchoir, c'était un végétarien. Il était gardien de la paix à Paris. Quand j'ai demandé ce qu'il faisait, à la place de dire qu'il était flic, non, je suis gardien de la paix. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Gardien de la paix, il était végétarien. Alors j'ai dit, mais c'est très bien, mais alors quand vous marchez, vous écrasez des insectes, vous écrasez des choses. Alors vous ne devriez pas marcher sur la terre. Elle me dit, c'est vrai, j'avais jamais pensé que j'écrasais des animaux. J'avais jamais pensé, c'est effrayant. Moi qui veux respecter la vie, mais vous écrasez, oui, entre eux, on va regarder. Elle était affolée, absolument affolée. Alors j'ai dit, non, ne soyez pas affolée, c'est que Dieu a permis que vous écrasiez des animaux plus petits que vous, tout en les respectant, après tout. C'est peut-être une manière de dire. Et c'est vrai que le dominium que nous avons, le dominium sur les réalités inférieures à nous, ça va très loin ce dominium. Il faut qu'il soit ordonné à la connaissance. C'est la manière de ne pas tyranniser. Et qu'il faut que notre connaissance soit ordonnée à l'amour. Vous voyez, c'est un excellent examen de conscience. C'est l'examen de conscience fondamental pour garder en nous intacte l'image de Dieu. Ce sont des nota bene que j'ai données aujourd'hui. Vous voyez, une nota bene par rapport à ces deux premiers chapitres. C'est toujours important de voir comment ces deux premiers chapitres doivent être pour nous un objet de méditation. C'est quelque chose de vivant pour nous, cela. C'est la vision de Dieu sur l'image de Dieu qui est en nous. Vous voyez, et de comprendre, ce que nous verrons la fois prochaine, que de fait, le démon essaie par tous les moyens de briser cet ordre de sagesse. Alors, première intervention, c'est celle que nous verrons la fois prochaine. Alors, la fois prochaine, on verra ce que c'est que la théologie de la tentation.